Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Le paradoxe, c'est aussi cela. C'est d'être obligé, sinon d'aimer, tout au moins de respecter la personne humaine chez ces monstres qui ont voulu détruire un pan entier de l'espèce humaine.
L'amour est plus fort que le mal est plus fort que l'amour, et ainsi à l'infini. Ce déchirement ne pourra jamais être recousu. Il y a là une espèce de dialectique dont on ne peut rien conclure et qui fait du pardon un problème insoluble. Ou bien le pardon n'a pas de sens, ou bien il consiste à pardonner au mal, c'est-à-dire à ce qui est inexcusable et sans circonstances atténuantes. Il est fait pour cela, c'est son métier de pardon. L'équipe des Nouveaux Chemins se compose davantage d'amour que de mal, grâce à Antoine Ravon, Lucie Tardy, Colomba Grossi, Marianne Chasseur et Marie Aubert, réalisée cette semaine par Midia Portis-Guérin, avec Jacques Hubert à la prise de son, et Géraldine Mosna-Savoie, que vous retrouverez à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, comme tous les jours. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Après Ulysse, l'Odyssée de l'âme selon Plotin, c'est un ouvrage de Pierre-Marie Morel, et c'est paru aux éditions Armand Collin.
Plotin, chic, rendez-vous à 10h51. Deuxième temps aujourd'hui de notre semaine sur l'antisémitisme, généalogie d'une haine gorgée de mythes, éternel retour d'une passion face à laquelle la raison n'a pas dit son dernier mot. Et pour preuve, hier, Adi Risk vous a expliqué les réflexions sur la question juive de Sartre. Demain, Marianne Matar-Bonucci vous tracera l'histoire de l'antisémitisme pris dans le réseau du fascisme et du racisme en décryptant les mythes qui l'alimentent. Et jeudi, c'est François Larocque qui embarquera à bord du navire du Marchand de Venise et dans l'univers bien plus redoutable encore de son contemporain Christopher Marlowe. Mais aujourd'hui, pour ce deuxième temps, j'ai le grand plaisir d'accueillir Joël Ancel pour évoquer la définition que Jean Kelevitch propose de l'antisémitisme comme la peur de l'autre, mais de l'autre imperceptiblement autre. Bonjour à vous Joël Ancel.
Bonjour Adèle.
L'antisémitisme réussit cette gageure de créer de toutes pièces une question qui n'existe pas, mais qui commence à exister par obsession dans la mythologie des bourreaux et par suggestion dans la croyance des victimes. Cette obsession est une des grandes spécialités de la chemise brune, mais le comble est qu'elle a développé effectivement dans toute une catégorie de citoyens pourvus, par suite de circonstances historiques déterminées, d'un état civil douteux, la conviction d'appartenir à je ne sais quelle race maudite. Pour que la question juive puisse se poser, il faudrait d'abord qu'il y eût un groupe d'hommes cohérents, solidaires dans ses intérêts comme dans ses origines, qui mérita de s'appeler Israël et fut autre chose qu'un mythe. Or, c'est ce que dément l'expérience la plus quotidienne. Les juifs ne se ressemblent entre eux ni au physique ni au moral. Ils n'ont ni les mêmes goûts ni les mêmes intérêts. Le plus souvent, ils n'ont en commun que cette fatalité elle-même, dont on leur a suggéré la croyance et qui finit en fait par leur fabriquer une manière de solidarité seconde. De ne pas descendre directement de Charles Quint, de ne pas avoir leur compte normal de grand-mère. C'est ce qu'on éprouve chaque fois qu'il s'agit de définir les marques diacritiques de l'esprit juif. Monsieur Bergson est juif, mais Spinoza aussi, qui est tout le contraire. Thank you. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance, Joëlle Ancel.
Merci beaucoup.
Vous êtes philosophe, membre fondateur du centre Raïssa Emmanuel Lévinas à Jérusalem, de la Société Internationale de Recherche Emmanuel Lévinas à Paris. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre consacré à Jean Kelevitch, Une philosophie du charme, paru chez Manutius en 2012. Et je viens de lire un extrait d'une psychoanalyse de l'antisémitisme, écrite par Jean Kelevitch, qu'on trouve dans un recueil sur intitulé L'esprit de résistance, des textes inédits de Jean Kelevitch publiés chez Albin Michel, texte inédit de 43 à 83. Celui-ci est écrit en 43. Et ce qu'il y a de très surprenant par rapport à l'émission d'hier, qui portait sur les réflexions sur la question juive de Sartre, c'est que Jean Kelevitch dit dans ce texte explicitement qu'il n'y a pas de question juive. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, Jean Kelevitch écrit cela avant Sartre, hein, puisque c'est un texte de 1943 qui a été écrit dans la clandestinité. Et il faut ici remercier François Schwab qui a fait un travail extraordinaire en réunissant ces textes dans l'esprit de résistance. Et donc Jean Kelevitch ne prend pas position, hein, par rapport à Sartre, puisque les réflexions sur la question juive, c'est en 45. Et il faut aussi préciser que à l'époque, alors on a dit que Sartre n'était pas vraiment au courant, enfin il n'avait pas pris toute la mesure de l'extermination parce que les informations n'étaient pas encore réunies, mais en 1943, Jean Kelevitch pensait, d'ailleurs à bon droit, les gens pensaient que on partait dans des camps à l'Est pour faire du travail forcé, hein. Donc ça c'est important de le dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc Jean Kelevitch, effectivement, dit qu'il n'y a pas de question juive, qu'elle a été inventée par les antisémites qui ont fini par le faire croire aux juifs eux-mêmes.
Voilà, dit-il autre chose disant cela que ce que disait Sartre, dont on a parlé hier donc, disant que finalement le juif n'existe jamais tant que dans le regard de l'antisémite. Jean Kelevitch à la fois dit qu'il n'y a pas de question juive, en même temps il refuse de réduire le juif à ce que l'antisémite fait de lui.
Oui, alors là, il y a aussi encore une précision à apporter, parce que son discours a évolué, évidemment, sur la question. Et donc, c'est à ce stade, c'est vrai que Jean Kelevitch dit que la question juive n'existe pas. En même temps, et ça, c'est pas dans le texte que vous avez cité, c'est pas en 1943, mais il le dira ensuite, parce que ça renvoie à son expérience personnelle, c'est-à-dire que, lui a été révoqué révoqué de son poste de professeur à l'université, du statut des Juifs, donc en novembre 1940, enfin le statut des Juifs, c'est en septembre, si je me trompe pas, enfin peu après, en tout cas. Et il dira plus tard, c'est le fait de nous retrouver juifs, hein, par le biais de ces statuts, évidemment, qui ont défini notre judéité par des critères raciaux, hein. Mmh. C'est ça qui nous a fait prendre conscience du fait qu'on était juifs, hein. Donc ça c'est très intéressant, parce qu'effectivement, alors ça c'est encore avant Sartre, et ça part, c'est pas une vue on va dire philosophique abstraite, une réflexion à partir d'une expérience. Sartre n'était pas juif, et on lui a reproché aussi de ne pas s'être suffisamment informé sur qu'est-ce que c'est qu'être juif, et toutes les dimensions de la culture juive, l'histoire, toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un peut se sentir juif. Ça part d'une expérience personnelle. Et justement, là, il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut prendre en compte, c'est que Jean Kelevitch, et ça n'enlève pas du tout, bien sûr, son importance, l'idée que quand Jean Kelevitch dit la question juive n'existe pas, elle a été inventée de toutes pièces, et bien sûr, c'est contre l'occupant, c'est contre le nazisme, c'est contre l'hitlérisme. Hein, et il a bien raison de dire ça, hein, parce que l'invention de la question juive, c'est qu'être juif, c'est défini par des critères raciaux. C'est pas défini par autre chose, par une culture, par des choses positives, l'appartenance à une communauté, une histoire, même un folklore, on va dire, ou des souvenirs, hein. Et en même temps, son expérience, si vous voulez, il y a quelque chose, oui, on devient juif tout à coup. Je pense pas que Jean Kelevitch soit devenu juif au lendemain des décrets, ou au moment où ces décrets sont tombés, mais on se retrouve juif qu'on le veuille ou pas, hein.
Mais alors, ce qui est très intéressant dans les textes de Jean Kelevitch, et là tout au long de sa vie, hein, puisqu'il continuera d'écrire sur cette question même plus tard, c'est que si d'un côté il dénonce la désignation d'un être comme étant juif par l'extérieur et en l'occurrence par l'occupant, de l'autre, il ne renonce pas pour autant à penser ce qui serait, alors peut-être pas une essence juive, mais il y a une forme d'ontologie, il parle du fait d'être juif,
tout à fait, oui,
sans être capable pour autant d'en proposer une définition. Et là on est en plein paradoxe, pour le coup, proprement philosophique.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, parler du fait d'être juif, alors on va parler de ça parce que bien sûr, ça découle de sa philosophie, hein. Mais c'est une réaction contre la notion même de question juive. Hein. Parce que si on exprime, on parle de question juive, ça veut dire que il y a un problème. D'ailleurs, Jean Kelly, ce sont les racistes, ce sont les hitlériens qui ont fait d'être juif, du fait d'être juif un problème. Hein, parce que être, alors ça c'est magnifique, il dit être c'est la chose la plus naturelle qui soit, d'ailleurs il le dit dans tous ses écrits philosophiques, hein. C'est une chose qui va de soi, c'est une évidence, et puis tout à coup, pour les juifs précisément, eh bien ça ne va plus de soi d'être, hein, puisque c'est leur être même qu'on remet en question. Alors maintenant, réagir plus précisément à ce que vous dites, alors c'est vrai, ça renvoie bien sûr à tout ce que Jean Kelevich dit de la quodité, du fait d'être, par opposition à ce que c'est qu'être, la quidité.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas ces concepts en tête, quodité d'un côté et quidité de l'autre.
Voilà, alors d'un côté c'est le fait même, hein. Et puis de l'autre côté, c'est ce que c'est. Donc, si vous voulez, ce que c'est, bien, ça peut être toutes sortes de. Par exemple, il y a le fait que je suis, hein. Et puis il y a le fait que je suis professeur de philosophie. Je suis invité chez vous aujourd'hui.
Il y a le fait d'être et les manières d'être.
Et les manières et toutes les manières dont d'être. Mmh. Et c'est vrai que alors Jean Kelevich dit ça du je ne sais quoi. Hein, bien sûr, le je ne sais quoi, eh bien, c'est ce qui est, ce qui est effectif. Mais en même temps, si on le définissait, si on essayait de définir sa quidité, eh bien, ça voudrait dire que on en fait un objet de connaissance. Et donc, on fait de l'impalpable, de l'insaisissable, mais qui existe. Hein. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. On en fait quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut cerner, qu'on peut réduire, etc., etc. Hein. Et donc, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis contente que vous me tendiez la perche. Parce que c'est quelque chose que je tiens absolument à dire, c'est que sa philosophie et ses engagements sont indissociables. C'est-à-dire que
il n'y a pas le philosophe d'un côté, l'idéologue de l'autre.
Absolument pas, parce que les gens qui l'accusent, qui disent oui, l'imprescriptible ou toutes ces déclarations extrêmement véhémentes que certains jugent excessives. Bon, c'est vrai qu'il est très très dur, il a pas peur des mots. C'est une sorte de dérapage. Jean Kelevich cesse d'être philosophe et sa passion l'entraîne trop loin. Hein. Bon, je suppose que les Allemands n'aimaient pas trop. Ce qu'il a dit, hein, à l'époque, hein, le travail que l'Allemagne a fait, qui est sans doute pas accompli, de prise en compte de ses responsabilités n'était pas encore peut-être en train ou accompli. Mais pour moi, il n'y a aucune distinction. Et ça, c'est justement la preuve. C'est que ce qu'il dit du je ne sais quoi, eh bien, c'est la même chose que ce qu'il dit, en fait, de l'être juif, hein. C'est-à-dire que,
quelque chose qui aime et dont on ne peut pas proposer une définition.
Alors il y a deux, ça on peut le dire en deux sens, c'est-à-dire que Jean Kelevich lui-même, eh bien quand il expliquait, d'ailleurs c'était au colloque des intellectuels juifs de France, mais c'était très intéressant, c'était à la suite d'un texte Le judaïsme comme problème intérieur en 1957, enfin c'était une conférence qu'il a faite au premier colloque des intellectuels juifs de langue française, d'ailleurs où il dit le judaïsme problème intérieur, pas question, hein, problème intérieur de nous, déchirement intérieur, j'en parlerai un peu plus, eh bien c'était une discussion dont à laquelle prennent part des gens comme Jean Val, comme Lévinas, comme Pierre-Maxime Schull. Et chacun dit ce que c'est pour lui que d'être juif. Hein. Ils ne sont pas très contents de Jean Kelevich. Ils lui disent, oui, alors, comme vous dites, Adèle, eh bien oui, vous êtes juif, Jean Kelevich, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jean Kelevich dit, eh bien, ce n'est pas pour moi ni un folklore, ce ne sont pas des souvenirs, etc., etc. Et c'est certainement pas ce problème juif, hein, cette judéité que les antisémites ou les gens qui ne réfléchissent pas davantage me colle de l'extérieur ou me collerait de l'extérieur, c'est quelque chose qui fait partie de la structure de mon être, mais que je ne peux qui est indéfinissable, qui est imperceptible. Et c'est ça qui excite la haine antisémite, parce que quand il y a une différence qui est infinitésimale et que vous ne pouvez pas saisir, eh bien ça fait peur et ça éveille la haine. Hein,
C'est ce qu'il explique dans un texte qu'on va écouter tout de suite. C'est un extrait de quelque part dans l'inachevé, hein, qui date de 1978. Et un texte que j'aimerais qu'on écoute maintenant, parce que vous dites qu'effectivement Jean Kelevich s'est attiré beaucoup de foudre dans ses réflexions sur l'antisémitisme. Et notamment une des raisons pour laquelle il peut être polémique, c'est qu'il distingue racisme d'un côté et antisémitisme de l'autre. Écoutons-le et on y revient ensuite. Mm-hmm.
Le racisme est d'abord un complexe de supériorité stupide, notamment du blanc par rapport au noir. Et ensuite, c'est la haine simpliste qu'on éprouve pour l'autre dans tous les cas où cet autre est manifestement autre, où son altérité est visible au premier coup d'œil. L'antisémitisme s'adresse à un autre, imperceptiblement autre. Il exprime l'inquiétude que le non-juif éprouve devant cet autre presque indiscernable de lui-même, le malaise du semblable vis-à-vis du presque semblable. La proximité lointaine, où évolue pour nous celui qui n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, est la zone frontière la plus scabreuse, la zone de la tension passionnelle par excellence. C'est la zone où cohabitent les peuples frères et les frères ennemis. Le juif est le frère ennemi, et de là vient la nature ambivalente des sentiments qu'il inspire. Le juif est différent, mais à peine, et on lui en veut doublement pour ce malentendu. Quand la différence devient patente, l'antisémitisme tend à se confondre avec le racisme. Et par suite, la forme la plus spécifique de l'antisémitisme est celle dont sont victimes les juifs européens des grandes villes, parce que cette haine-là est plus complexe, parce que son poison est plus insidieux. Elle traque à l'infini cet autre, à peine autre, dont l'altérité à l'infini lui échappe, cet insolent semblable différent qui se permet de ressembler aux Ariens.
Avant de vous redonner la parole, Joël Ancel, je vous propose d'écouter une archive qui date de 1942 et qui illustre, me semble-t-il, à merveille ce que Jean Kulevitch dit dans ce texte du problème du juif étant que celui-ci est autre, mais imperceptiblement autre, qui justifie la distinction avec le racisme. Écoutez, mais oreilles sensibles, s'abstenir.
Beaucoup de Français Ariens se lamentent pour le compte des juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer ?
Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Peut-être 50%, mais oui. Les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Eh bien, on leur impose l'étoile de Sion. Ce n'est pas une très grave mesure, croyez-le bien. Les Juifs eux-mêmes arborent à chaque instant cette étoile de Sion sur leurs papiers à lettres, sur leurs boutiques, sur leurs publications diverses. Et mon Dieu, ils en sont très fiers.
Vous venez d'entendre Charles Laville, le responsable de la section scientifique de l'Institut d'études des questions juives. Nous étions en 1942 et donc celui-ci lui dit très clairement « Le problème ne se poserait pas si les juifs avaient la peau bleue, en d'autres termes, si leur différence raciale avec nous autres, les non-juifs, hein, dit-il, était explicite. » C'est ce genre de présupposé qui conduit Jean Kulevitch à définir le juif comme étant l'autre imperceptiblement autre et donc d'autant plus redoutable, Joël Ancel.
Oui, tout à fait. Bien sûr, ça fait froid dans le dos, évidemment. Hein, c'était juste après la mesure donc, qui a imposé aux juifs le port de l'étoile jaune. Et donc, Jean Kulevitch certainement a entendu ça. Enfin, il connaissait tout cela, il connaissait tous ces discours. Bon, ceci dit, je pense pas que ça soit tout à fait une réaction, puisque c'est encore une fois quelque chose qui découle de sa philosophie. Hein. Tout homme, c'est l'hominité de l'homme. Hein. Il préfère ce terme à humanité, peut-être qu'il le trouvait pas assez fort, mais l'hominité de l'homme, eh bien, c'est d'être semblable différent. Hein. Il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre. Hein. Mais ce qui est effectivement, on peut dire, c'est absolument terrible que ce monsieur, c'est un terme qui ne mérite pas Mais que faire? Effectivement, définit lui-même ce qui distingue le racisme de l'antisémitisme, hein, puisque le racisme. Alors ça, maintenant, je passe à Jean Kelevich parce que je ne vais pas bien sûr.
Non, laissons Charles Laville où il est.
On cherche la ville où il est, voilà. Et en enfer, probablement, espérons-le, si l'enfer existe. Mais Jean Kelevich, c'est bien la distinction qu'il fait entre racisme et antisémitisme. Et bien sûr, ça ne veut absolument pas dire qu'il y ait une hiérarchie et que l'antisémitisme soit plus grave que le racisme.
Voilà, mais alors, précisons les choses alors, parce que c'est effectivement ce qui semble découler du texte. L'antisémitisme n'est pas simplement une forme de racisme. La distinction est faite, nous dit Jean Kelevich, mais on peut y déceler une forme de hiérarchie implicite, disant que sur l'échelle de la dangerosité, eh bien l'antisémitisme est supérieur au racisme.
Oui, alors là, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Chaque fois qu'il a fait la distinction, il a dit clairement, hein, je ne fais pas d'hiérarchie, je ne place pas la haine du juif au-dessus de la haine du, c'est pas politiquement correct, mais enfin bon, hein, du noir, il l'a fait aussi exprès parce que c'est la différence visible, hein, du noir ou de toute autre forme de racisme. Et là, il y a une distinction très importante entre, c'est d'ailleurs le fondement de la distinction. Le problème, c'est pas du tout, disons qu'entre le racisme et l'antisémitisme, ce qu'il y a de commun, c'est la haine du différent, hein, de celui qui est différent. Maintenant, il y a deux distinctions très importantes à faire entre le racisme et l'antisémitisme, du point de vue de Jean Kelevich. C'est que le racisme s'adresse à une altérité, alors j'ose dire maximale, mais il faut savoir que chez Jean Kelevich, c'est pas une échelle scalaire, hein, c'est pas une question de plus et de moins de degrés, c'est une différence de nature. L'altérité est maximale, elle est visible, elle est constatable, on peut la décrire. Voyez, c'est ce que dit cette femme bonhomme. Eh bien, s'ils avaient la peau bleue, on pourrait vraiment les cerner, hein, cerner ces juifs. Mais justement, dans le cas des juifs, cette altérité devient infinitésimable, imperceptible. Pourquoi ? Alors, c'est sans doute vrai aussi, encore plus des juifs occidentaux, mais peut-être pas des juifs qui venaient de Pologne et de Russie, qui étaient très très qui vivaient en France au moment de au
mais
moment
pourquoi est-ce si important pour lui de distinguer les deux et de ne pas faire l'antisémitisme une partie du racisme?
Oui.
Une catégorie,
oui.
Une espèce.
Juste ce que je voulais dire, c'est que justement les juifs ont cette particularité qui est propre à tous les hommes, mais Jean Kelevich dit toujours que c'est avec exposant, hein, eh bien c'est de ressembler, de dissembler, parce que les juifs occidentaux, on parle pas de ceux qui vivaient en France et qui parlaient yiddish et qui venaient de Pologne et de Russie, c'est peut-être moins vrai les concernant, ne diffèrent de leurs concitoyens que pratiquement pas rien. On parle des juifs qui se sentaient français avant tout, qui étaient assimilés, qui étaient souvent acculturés, hein, et on veut les enfermer dans une différence, mais dont ils sont porteurs, mais en faire un problème et une raison de les exterminer. Alors il n'y a pas une question d'hiérarchie, bien entendu, mais cette peur est au fondement c'est le ressort de la haine antisémite. Et ce que le juif porte en lui, qui n'est pas une invention de l'antisémite, cette altérité, eh bien, pour la cerner, c'est exactement ce que dit la ville, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, non seulement les nazis, mais les collaborateurs, bien entendu, hein, les collaborateurs de Vichy, les scientifiques, les pseudo-scientifiques français, il y a eu cette fameuse exposition Les Juifs et la France, ils ont voulu caractériser les Juifs par des traits physiques qui leur seraient propres, pour qu'on puisse les cerner. Et Jean Kelevich dit bien dans le texte que vous avez parlé avant, Psychoanalyse de l'antisémitisme, il dit bien, les Juifs sont tous différents, ils n'ont pas les mêmes traits physiques, ils sont différents comme tous les hommes sont différents différents les uns des autres. Hein. Et donc, on a voulu inventer quelque chose qui n'existait pas, mais qui permettait, qui justifiait la persécution. Et c'était bien ça, le port de l'étoile jaune. C'est ce que dit la ville. Hein. Comment voulez-vous qu'on reconnaisse ces Juifs qui nous ressemblent, qui sont presque des Ariens, hein, physiquement, hein. Il faut bien leur donner un signe distinctif.
Voilà, alors dans une conférence en 1967, enfin qui a été publiée en 1967 et qu'on trouve dans toujours le recueil de textes inédits, l'esprit de résistance, Jean Kelevitch revient sur cette question et écrit ceci. L'antisémitisme n'est pas le cas particulier du racisme parce que rien n'est le cas particulier de rien. Spécificité de l'antisémitisme, ce n'est pas une espèce dans un genre, selon la classification d'Aristote. Ce conceptualisme aurait d'ailleurs quelque chose de rassurant en donnant à l'antisémitisme un caractère doctrinal. Mais on ne comprend rien à ces choses-là quand on est réductionniste. C'est une paresse conceptuelle. On ne commence à comprendre ces mouvements de l'âme qu'à partir du moment où on les traite comme des espèces distinctes. C'est ainsi qu'on dit de l'individu, il est seul de son espèce. Le mot lui-même, comme tout ce qui se termine en « isme », suggère une systématisation pseudo-rationnelle. Le mot « sémite » suppose qu'il n'y a rien de personnellement dirigé contre les Juifs. Il y aurait un racisme parmi tant d'autres. C'est ce que je ne crois pas. Il y a dans cette généralisation sommaire quelque chose de rassurant qui fait du bien. Vouloir interpréter l'antisémitisme dans le cadre de cette conceptualisation, c'est une lecture sereine, scientifique, pour une conscience transcendante qui survole l'histoire et essaie de la comprendre. À cette altitude, tous ces anti se valent. Et quand on monte trop haut dans l'atmosphère, même la résistance et la collaboration sont des détails, on finit par les confondre. Ce qu'on y entend, Joël Ancel, dans ce texte que j'ai lu en entier à dessein, c'est l'importance d'une distinction, et encore une fois, non pas par souci de hiérarchie, mais c'est pour mieux condamner en retour l'utilisation pseudo-scientifique du terme de racisme. C'est les termes eux-mêmes qu'il conteste, et pas tant l'assimilation racisme-antisémitisme. C'est même l'utilisation même du racisme pour penser un individu, tout comme le terme d'antisémitisme est forcément trop général.
Oui, bien sûr. Alors là, il y a un terme très important, conceptualisation, qui est synonyme chez Jean Kelevitch de banalisation. Alors, on a beaucoup parlé de banalisation. Moi, je pense que c'est Jean Kelevitch qui l'a peut-être mis dans l'usage public. En tout cas, pour ce qui concerne cette question, ça c'est sûr. Déjà avant-guerre, il refuse ça. Hein, quand il s'agit, par exemple, de la mort, il en parle déjà avant-guerre. Il y a son grand livre après-guerre, La mort. Hein, et bien, il dit, on ne peut pas réduire la tragédie que constitue la disparition d'une personne unique et singulière, l'ipséité, hein, comme il dit, en la mettant sous un concept. Hein, tous les hommes sont mortels. C'est un phénomène général. Et là, c'est pareil. Encore une fois, le lien direct avec sa philosophie. Hein, et bien, faire de l'antisémitisme une forme de racisme, eh bien, c'est d'en faire une espèce dans un genre, hein, comme il le dit lui-même. C'est donc le banaliser, ne pas prendre en compte, en fait. Bon, Jean Kelevitch, c'est une pensée différentielle, hein, hein, l'infinitésimal, le presque rien qui fait tout. Le juif est presque semblable, mais il n'est pas semblable. Hein, hein, aucun homme, d'ailleurs, n'est semblable à l'autre. Eh bien, ça, c'est au fondement de sa philosophie. Hein, et donc, pour lui, eh bien, conceptualiser, c'est justement banaliser, c'est subsumer, comme il dit, le juif dans une catégorie, en le mettant dans une catégorie plus grande. Et alors, c'est s'interdire de comprendre et l'antisémitisme et le racisme, hein, et de pouvoir lutter contre le racisme. Si on bien que bien sûr l'antisémitisme tel qu'il a été inventé par l'antisémitisme moderne, c'est a un fondement racial, évidemment, mais c'est s'interdire aussi de lutter comme il faut contre le racisme. Alors j'ai trouvé quelque chose dans l'esprit de résistance très intéressant, parce que alors il emploie le mot psychoanalyse de l'antisémitisme, il applique dans ce texte la psychanalyse, c'est vrai, mais la psychanalyse de masse, hein, plus que la psychanalyse individuelle. On sait que Jean Kelevitch avait un rapport difficile avec la psychanalyse. Alors c'est très intéressant parce que j'ai trouvé une note, pas ce texte-là, mais un autre texte où il parle justement de la distinction entre racisme et antisémitisme, où il se réfère au Moïse de Freud, hein, qui parle de la haine pour les petites différences de manière générale, est beaucoup plus vive et virulente que lorsqu'elle s'adresse, lorsqu'elle a pour objet, lorsqu'elle vise les différences fondamentales. Hein, c'est très intéressant. Bon, plus la différence est infinitésimale. On ne parle pas de petite différence. Plus elle est imperceptible et plus elle éveille la haine. Hein. Et conceptualiser, eh bien, c'est essayer de saisir le phénomène, de le cerner, de l'enfermer dans un concept. Hein. Ça, c'est ce que Jean Kelevitch refuse parce que c'est banalisé.
Et d'ailleurs, il le dit très bien toujours dans quelque part dans l'inachevé. L'antisémite déchiffre et soupçonne et débusque qu'il est par excellence celui qui déjoue le secret, mais il a malgré tout conscience du caractère fuyant, indéterminable de cette différence dont il s'est fait le dénonciateur fanatique et maniaque. Et voilà comment il identifie, il fait la généalogie de l'identification entre racisme et antisémitisme. Les nazis ont donc demandé appui au racisme parce que le racisme, avec sa pseudo-scientificité, semble donner à l'antisémitisme un fondement, une espèce d'armature dérisoire et primaire. Les guetteurs à l'affût du juif camouflé dans l'ombre se croient ainsi mieux armés sur le plan théorique.
Oui, une armature scientifique, là, dans ce
exactement,
cas.
Exactement, ça reprend ce que vous dites, la caractéristique objective et conceptuelle qu'il essaye de fuir pour penser la réalité en dehors de ces catégories.
Oui, bien sûr. Oui, ça veut pas dire, bien sûr, que le, enfin, ça, on l'a dit, et ça veut pas dire que l'antisémitisme moderne, ce qu'il distingue d'autres formes d'antisémitisme, qui étaient plutôt de l'anti-judaïsme de l'Église, eh bien, c'est son caractère racial. Et bien sûr que Jean Kelevitch le prend en compte, parce que sinon, ça reviendrait en fait à ignorer aussi ce qui fait l'unicité de la Shoah quelque part, hein, de l'extermination des Juifs. Mais en même temps, eh bien, ça ne peut pas servir de prétexte pour nier la singularité absolue de l'antisémitisme, ce qui fait sa singularité, ce qui le distingue d'autres formes de racisme. Hein, comme il y aura de quelque chose de spécifique aussi dans la haine du noir et dans la haine raciste, hein, dans la haine raciale et raciste.
Mais Jean Kelevitch a mis à conscience que le terme de race ici est galvoté, puisque de toute façon, même si on est à l'époque, les avancées scientifiques ont montré quand même aujourd'hui que le terme de race, enfin la distinction des races au sein de l'espèce humaine était absurde. Et donc du coup, quand il parle de la pseudo-scientificité du racisme brandi par les nazis pour justifier l'antisémitisme, il démantèle l'absurdité double du racisme et de l'antisémitisme.
Tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec chaque mot que vous avez dit.
Sans parti pris, on établit le bilan. L'humanité d'aujourd'hui, il devient limpide comme un clair de lune et lumineux comme un clair de notaire. Que c'est pas de sitôt que les hommes seront frères, et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents.
C'est triste et déprimant.
Y'a de la haine partout, y'a de la haine tout autour de nous. De mémoire de grinche, jamais dans les yeux, on vit tant de regards haineux. Ah, y'en a-t-il,
y'en a-t-il,
y'en a-t-il,
y'en a-t-il,
y'en a-t-il de cette haine qui saoule les esprits, renie la fraternité et répudie l'altruisme aussi. Hélas, hélas, l'altruisme est foutu. Y'a pas plus d'altruisme que de beurre orbu. Y'a plus que de la haine, y'a plus que de la haine. Si bien que dans le pays, bientôt tout le monde sera à. Mais là où ça se complique, où ça vire au tragique, c'est que la haine devient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h33. C'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à l'antisémitisme et après les réflexions sur la question juive de Sartre hier. C'est aujourd'hui de la peur de l'imperceptiblement autre chez Jean Kelevitch que nous parlons en compagnie de Joël Ancel, membre fondateur du centre Raïssa Emmanuel Lévinas à Jérusalem et de la Société internationale de recherche Emmanuel Lévinas à Paris. Joël Ancel qui est entre autres l'auteur de Vladimir Jean Kelevitch, une philosophie du charme, paru aux éditions Manutius.
Un ignoble attentat raciste a été commis aujourd'hui en fin d'après-midi à Paris contre une synagogue de la rue Copernic dans le 16e arrondissement. Un engin explosif de très grande puissance a tué 4 personnes, 16 autres ont été grièvement blessées. La bombe a explosé au moment où plusieurs centaines d'Israélites étaient réunis à l'intérieur de la synagogue pour prier en cette veille de sabbat.
Nous devons tous faire notre examen de conscience. Comment ces choses-là ont été possibles? Je crois que vous m'avez demandé
d'où venait d'après moi la résurgence du nazisme. Mais si par hasard elle venait de notre propre indifférence, notre propre détachement, notre manque de respect pour la résistance, du laisser-aller moral de la France, c'est la conséquence d'une série d'abandons, de démissions. Et cette série d'abandons et de démissions, c'est pas difficile à comprendre, elle a commencé en 1945, l'année même de la libération, l'année même de la victoire. Elle a commencé tout de suite. Ça n'est pas le fruit d'une longue évolution. Maintenant, elle porte ses fruits. Par conséquent, nous cherchons les causes comme si quelqu'un avait attrapé une maladie. D'où vient cette maladie? Il a attrapé l'antisémitisme quelque part, en fréquentant du mauvais milieu. C'est pas ça. Il est caché dans le fond des cœurs. Il est dans la lâcheté morale de beaucoup de gens. Il est déjà préfiguré. Il était préparé. Par conséquent, c'est pas étonnant tout ce qui arrive. Il n'y a pas besoin de jouer au prophète pour dire « je l'avais prévu ». Tout le monde l'avait prévu. Tout le monde, tout au moins dans certains milieux, les milieux de la résistance, ceux qui sont fidèles aux souvenirs et qui ne cessent d'avertir les gens qui les entourent. Faites attention, le nazisme n'est pas mort, n'est-ce pas ? Personne ne veut nous croire. N'est-il pas vrai ? On ne nous croit pas. Et bien maintenant, peut-être qu'ils croiront.
Je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. C'est un acte qui mérite d'être sévèrement sanctionné.
C'était le 3 octobre 1980. L'attentat de la rue Copernic était un attentat à la bombe dirigé contre la synagogue de l'Union libérale israéliste de France, le soir du Shabbat. Et c'était le premier attentat contre les Juifs en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Joël Ancel. Et souvenez-vous de l'intervention du Premier ministre d'alors Raymond Barre que l'on vient d'entendre, qui fait la distinction entre les victimes, en tout cas les cibles désignées par l'attentat, que sont ces Israélites, dit-il, et les autres, les Juifs innocents, qui, par erreur, aurait été touché par la bombe. On est là face à l'exemple d'une forme d'antisémitisme absolument spontané qui s'exprime. On est dans les années 80 ici, donc on est quand même bien longtemps après la Seconde Guerre mondiale dont nous venons de parler, et qui semble pour le coup donner raison à Jean Kélévitch dans l'intervention juste avant qu'on a entendu. C'était au JT de 13h de TF1. L'époque a bien changé. Jean Kélévitch avait peut-être intervenu en direct pour dire, mais en même temps, à quoi vous attendiez-vous? Nous n'avons pas, et son argument est quand même très intéressant, nous n'avons pas été suffisamment fidèles à la résistance, et voilà pourquoi ce genre d'attentat peut être perpétué aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Joël Ancel?
Oui, alors bien sûr, l'indignation que j'ai éprouvée à l'époque, hein, en entendant Raymond Barre, hein, le choc aussi, puisqu'il était quand même Premier ministre, c'est pas... Il était... Le Premier ministre est censé exprimer le discours officiel du gouvernement. Hein, donc, comme vous dites, c'est une réaction épidermique. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Hein, c'est exactement ce que dit Jean Kélévitch. La haine qui est au fond du cœur. Hein. Alors maintenant, bien sûr, quand il dit « nous n'avons pas été si fidèles », c'est pas valable pour lui. Hein, mais c'est un moraliste.
Jean Kélévitch, là, vous parlez.
Oui, Raymond Barre, non, c'est clair. Non, mais Jean Kélévitch a été toujours fidèle, bien sûr, chevalier de la bonne mémoire, dans laquelle d'ailleurs il a rendu hommage au Klarsfeld et à Beat Klarsfeld, hein, les chevaliers de la bonne mémoire, c'est vraiment à eux qu'il a dédié ce terme. Et en fait, Jean Kélévitch, eh bien, c'est dès 1948, hein, il y a un texte dans l'honneur et la dignité qui est publié avec son ouvrage, l'imprescriptible, où il reproche déjà à la résistance, hein, enfin, c'est-à-dire aux responsables de la résistance dont certains avaient accédé au plus haut de fonction, hein, pour ne pas dire le nom de Gaulle, mais bien d'autres, eh bien, il leur reproche de ne pas être assez radicaux. Hein, on commence à oublier, on commence à vouloir avoir, déjà à l'époque peut-être, de meilleures des relations avec l'Allemagne, parce que c'est bien d'un point de vue économique, hein, etc., etc. Cette leçon de morale, c'est un moraliste, mais au bon sens du terme, hein, bien sûr, c'est pas un prêcheur, hein. Eh bien, je pense que, si vous voulez, si je puis me permettre, Jean Kélévitch a prévu, hein, il est mort en 1985, il a prévu, en fait, il a vu le début, ou plutôt l'émergence d'un phénomène qui existait déjà, mais qui n'a fait que s'aggraver et qui a permis, par exemple, le fait que quelqu'un comme Dieudonné puisse s'exprimer librement et puis faire des spectacles antisémites et bien d'autres choses, c'est-à-dire une libéralisation de la parole. Hein. Vous voyez, les Français innocents, les Israélites, hein, on dit pas les Juifs, c'est un gros mot, enfin pas bien sûr pas le présentateur, pas le journaliste, hein, mais il y a quand même quelque chose, vous voyez, on évite le mot juif, hein, et puis les Français innocents. Et puis ensuite, c'est toute forme de négationnisme, et pas seulement du côté de Forisson, enfin des historiens, entre guillemets, hein, des pseudo-historiens, eh bien, c'est une libéralisation de la parole. Hein.
Mais le problème est-il la libéralisation de la parole, ou le contenu véhiculé par cette parole? Parce que le fait que ces individus puissent penser, tenir ce genre de discours aujourd'hui, qui est un problème, pas le fait qu'on les laisse s'exprimer, si.
Oui, bien sûr, c'est la lâcheté, hein. C'est la lâcheté. C'est ce que dit Jean Kelevitch, hein. C'est l'indifférence, c'est la lâcheté. Hein, on a toléré. Ça s'est fait par degrés. On tolère tel excès de langage. On dit c'est un excès de langage, c'est un dérapage. Hein, hein, puis ensuite ça s'amplifie, puis ça devient, en fait, ça rentre dans, ça devient banal.
Mais vous dites qu'il l'avait prédit. De quelle manière pouvez-vous dire ça?
Pour moi, ouais. Hein, pour moi, parce que si vous voulez, j'ai eu l'impression en fait d'assister à ce processus en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose avec ces propos de Raymond Barre, qui a dû déjà, il y a eu des précédents, mais pour moi il s'est passé quelque chose. Hein, ça montre un peu, si vous voulez, on peut dire jusqu'en 1980, enfin après tout, hein, bien disons 25 ans après la Shoah, 25 ans après la fin de la guerre, ou 30 ans, ou un peu plus. Hein, eh bien, on peut pas prononcer ces termes, on ne peut pas parler comme Raymond Barre. Et puis tout à coup, enfin officiellement, bien sûr, il y a des gens qui ont toujours parlé comme ça, des antisémites déclarés. Et puis tout à coup, le discours le Premier ministre paraît officialisé, hein, donne une sorte d'imprimature à quelque chose qui est absolument insupportable, hein, qui est inadmissible. Pour moi, c'est ça. Hein, pour moi, c'est ça. Et Jean Kelevitch, en fait, c'est un appel à la vigilance. Hein. C'est un appel à ne pas être indifférent, parce que la haine qui commence par les Juifs ne finit pas avec les Juifs. Hein, on sait ça. C'est un symptôme dans une société. Hein. La haine qui commence avec les Juifs, eh bien, c'est la haine du différent. C'est la haine de l'infiniment différent. Et ça ne s'arrête pas aux Juifs. Hein. Et ça, je crois que c'est très important de le dire. Et c'est pour ça que si vous voulez, pourquoi il y a indifférence? Pourquoi est-ce qu'il y a lâcheté? Eh bien, parce qu'on dit oui, enfin bon, c'est les Juifs qui ont été atteints, hein, c'est leur problème. Hein, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, disons que tant que ça touche une école juive à Toulouse, hein, Mohamed Merah, tant que ça touche Ilan Halimi, bien que ça soulevait une énorme indignation en France, hein, il faut surtout pas, c'est pas une indifférence totale. Mais après tout, c'est les Juifs qui sont touchés.
Comme mais si c'était pas les Français.
Mais c'est un symptôme, puisqu'on sait après ce qui s'est passé, et que le terrorisme et la haine, eh bien, touchent tout le monde. Hein,
hein. Alors, encore un point sur Jean Kelevitch, avant de terminer cette discussion, Joël Ancel, c'est que paradoxalement, alors qu'il en invoque cette grande responsabilité morale à l'égard de la mémoire et de l'histoire, lui-même reconnaît d'un côté la nécessité du pardon pour pouvoir penser un après Seconde Guerre mondiale, un après la Shoah, et de l'autre la difficulté intime, cette fois-ci et personnelle, de prononcer ce pardon, qui est pourtant la seule manière d'essayer de sortir justement d'un cercle de haine. Ce paradoxe-là chez Jean Kelevitch est extrêmement intéressant. Écoutez-le sans expliquer, c'était en 1981.
Le pardon à un ennemi mortel, le pardon pour une injure ineffaçable, pour des crimes inexpiables, n'est-ce pas ? Nous avons beaucoup à pardonner. Nous avons pour cela à faire un effort vraiment déchirant, impossible. Et le paradoxe, c'est aussi cela, n'est-ce pas ? C'est d'être obligé, sinon d'aimer, tout au moins de respecter, parce qu'il faut respecter en eux la personne humaine, respecter la personne humaine chez ces monstres, n'est-ce pas ? Qui ont voulu détruire tout un morceau, un pan entier de l'espèce humaine, l'exterminer, n'est-ce pas ? C'est vraiment demander un effort surhumain, un effort dont personnellement je ne suis pas capable. Je sais qu'il faut pardonner, qu'il faudrait pardonner, l'Église vous dit cela, le judaïsme peut-être aussi, enfin les religions occidentales, le prêche, mais physiquement, ça m'est impossible. Donc je dis que je pardonne parce qu'il le faut, parce qu'il faut pardonner, mais pardonner du cœur, n'est-ce pas, en disant franchement que je vais pardonner jusqu'à les aimer, cela non. Tout ce que je peux, c'est n'avoir pas de rapport avec eux, ne jamais les revoir, ne jamais avoir à leur serrer la main, et comme ça je vis, mon Dieu, très agréablement sans les voir. Ça a créé en moi une conversion totale. J'ai oublié cette langue, j'ai voulu l'oublier, je l'ai en effet oublié, et même cette littérature, sauf exception, très rare, n'est-ce pas, et cette culture dont je me détourne également.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le devoir de pardonner est devenu aujourd'hui notre problème. Le pardon que l'on doit accorder à l'offenseur et au persécuteur est exceptionnellement difficile pour une certaine catégorie d'humiliés et d'offensés. Pardonner est un effort, sans cesse, à recommencer. Et personne ne s'étonnera si nous disons que l'épreuve est dans certains cas à la limite de nos forces. Mais c'est que le pardon au sens strict est effectivement un cas limite, comme peuvent l'être le remords, le sacrifice et le mouvement de charité. Il est bien possible qu'un pardon pur de toute arrière-pensée n'ait jamais été accordé ici-bas, qu'une dose infinitésimale de rancune subsiste en fait dans la rémission de toute offense. Tel cet impondérable calcul, tel ce motif microscopique d'intérêt propre qui subsiste en cachette dans les souterrains du désintéressement, telle l'imperceptible petite spéculation qui fait du désespoir un disperato de théâtre et qui est l'impure conscience de la mauvaise conscience. Le pardon est à ce point de vue un événement qui n'est jamais advenu dans l'histoire, un acte qui n'a lieu nulle part dans l'espace, un mouvement de l'âme qui n'existe pas dans la psychologie courante. Toutefois, et même s'il n'était pas une donnée de l'expérience psychologique, le geste du pardon serait encore un devoir. Il faut dire, Joëlle Ancel, que Vladimir Jankélévitch a énormément écrit sur la question du pardon.
Oui.
Dans plusieurs textes qu'il avait alors obsession, le terme n'est pas forcément approprié, mais qu'en tout cas ce n'est pas un texte qu'il a écrit en passant, qui ne s'inscrit pas dans une réflexion plus large ou sa philosophie en général. Mais il est assez, il est très émouvant de voir le constat qu'il fait en tant que philosophe, sans vouloir distinguer les deux, hein, mais de ce devoir de pardon, la difficulté de s'y adonner, même peut-être qu'il conteste l'existence même d'un pardon pur sur Terre. Et de l'autre, l'entendre, hein, là, donc en 81, dire « pour ma part, je ne peux pas pardonner avec le cœur ». Donc il n'y a peut-être pas le philosophe d'un côté, l'idéologue de l'autre, mais il y a l'être humain d'un côté et le philosophe qui s'efforce quand même de penser ce qu'il n'arrive pas à faire.
Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez, dans le traité sur le pardon, hein, parce que souvent on les oppose, on dit, le traité philosophique sur le pardon, c'est un écrit philosophique.
De 67.
De 67. Et l'imprescriptible, donc, pardonner avec un point d'interrogation, hein, et l'imprescriptible, cet article qui est apparu dans Le Monde à l'origine, et dans le contexte de la question qui a été posée, donc, au Parlement français, de la prescriptibilité des crimes nazis au bout de 20 ans. Heureusement que les crimes ont été déclarés d'ailleurs imprescriptibles et l'article de Jankélévitch a joué un rôle important dans la réflexion qui a mené à cette décision. Alors dans le traité philosophique, il y a effectivement une tension, un déchirement, hein, parce que s'il fallait pardonner, eh bien il faudrait que ce pardon soit gracieux, hein, sans condition, un pardon inconditionnel, hein, sans qu'il reste, comme il dit, la moindre trace de ressentiment, la moindre rancune, la moindre réserve, hein. Ça, c'est le pardon, d'ailleurs, il le dit lui-même, le pardon chrétien. Hein, c'est le pur amour qui l'exigerait. Il parle de le pur amour, c'est quelque chose de très important dans sa philosophie. Et il dit, eh bien, sans doute cela n'a jamais existé sur Terre. Hein, comme Kant dit, il est bien probable que jamais sur Terre un acte n'était accompli purement par devoir. Hein, mais c'est une sorte d'idéal, hein, qu'on devrait poursuivre infiniment, hein, ou indéfiniment. Maintenant, dans le même texte, eh bien, il parle du pardon conditionnel. Hein, et là, il dit ailleurs que c'est l'éthique du judaïsme. humain. Hein, c'est très intéressant d'ailleurs que quand il s'adresse au public des colloques des intellectuels juifs de France, où il n'y avait pas d'ailleurs que des juifs, enfin disons que c'était la majorité, eh bien là il parle plutôt du pardon conditionnel, hein, parce que ça vient de bon, c'est un principe talmudique, hein, que les fautes qui ont été commises, les fautes qu'un homme a commis envers un autre homme, eh bien pour qu'elles soient pardonnées, il faut demander pardon. Hein, il faut demander pardon.
Et à l'époque où il écrit d'ailleurs en 71, c'est pas sûr que justement ceux à qui il s'en prend, les Allemands comme il les désigne, dont il refuse de parler la langue, de lire les livres allemands, d'écouter la moindre musique allemande ou de lire la moindre philosophie allemande, il estime qu'eux-mêmes ne leur ont pas demandé pardon.
Oui, tout à fait. Hein. Bon, évidemment, quand on dit, Jean Kelevitch est très radical, ça ne veut pas
c'est
dire.
Ça.
Je pense qu'il ne pouvait pas oublier la langue allemande. Il a fait sa thèse sur Schelling.
C'est lui-même qui le dit, hein, qu'il refuse de parler un mot d'allemand, qu'il a oublié la langue.
Tout à fait. Bien, ça veut dire, même si dans les faits, hein, on ne peut pas oublier une langue qu'on ne maîtrisait à ce point-là, mais ça veut dire qu'il y a une décision ici, hein, parce qu'ils ne nous ont pas demandé pardon, effectivement. Et cette condition est absolument essentielle, surtout qu'on ne peut pas pardonner à la place des victimes. Hein. Et alors donc, si vous voulez, pardonner avec un point d'interrogation, hein, dans l'imprescriptible, eh bien la réponse est non. Ils ne nous ont pas demandé pardon.
Pardon pour cette fille que l'on a fait pleurer. Pardon pour ce regard que l'on quitte en riant. Pardon pour ce visage qu'une larme a changé. Pardon pour ces maisons où quelqu'un nous attend. Et puis pour tous ces mots que l'on dit, mots d'amour, et que nous employons en guise de monnaie, pour tous les serments qui meurent au petit jour. Pardon pour les jamais, pardon pour les toujours, pardon.
Les pardons au pluriel de Jacques Brel pour terminer cette émission. Un grand merci à vous, Joël Ancel,
merci beaucoup
d'être venu nous parler de Jean Kelevitch aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna Savoie.
Il n'y a pas de vent, mais nous avons un bon courant. Maintenant, tu peux être content.
Tu ne l'es pas, toi ?
Est-ce que je sais ? Je ne suis jamais satisfait, moi. Un jour, je regrette la famille. Je voudrais rentrer à la maison et je deviens triste et sombre. En moi, il y a un autre qui attend sa part et qui réclame l'aventure, les voyages, la mer et aussi ses tempêtes. Il a tellement soif d'inconnu, tout l'attire, les îles, les démons, les géants.
L'Odyssée d'Ulysse est un retour. On connaît d'ailleurs la dimension métaphorique de cette traversée des mers et des terres qui va le conduire jusqu'à ses origines, jusqu'à lui-même, ou plutôt au-delà de lui-même, de ce qu'il a été et de ce qu'il ne sera plus jamais. Eh bien, c'est exactement le même mouvement que doit suivre l'âme humaine, selon Plotin. Entre Ulysse et la conversion que Plotin nous encourage à opérer pour atteindre l'un avec un grand U, le principe premier, il y a un parallèle que Pierre-Marie Morel explore tout au long de son ouvrage. Son ouvrage se présente d'abord comme une relecture des Énéades, ces traités de Plotin qui nous sont parvenus de l'Antiquité dans leur intégralité et qui, comme on l'apprend, étaient mal écrits, bourrés de fautes et que Plotin ne relisait même pas. Mais l'ouvrage de Pierre-Marie Morel est en fait plus qu'une simple relecture, car même si on y découvre toute la pensée de Plotin, la voie de l'éthique, la revalorisation de l'image ou le mal comme matière, on suit en fait la procession de l'âme comme s'il s'agissait du retour d'Ulysse, un chemin semé d'embûches. Descendu tragiquement dans le monde sensible, l'âme doit maintenant remonter vers le grand principe, celui qui rassemble en une communauté toutes les autres âmes. On dirait presque un teaser d'un film d'aventure. Comment l'âme arrivera-t-elle à dépasser son attrait pour les mondanités ? Saura-t-elle voir dans la beauté sensible, la beauté intelligible ? Parviendra-t-elle à atteindre la vie supérieure, celle au-delà même de l'intellect ? Comme Ulysse qui distingue en lui 2 tendances, Plotin voit en effet l'âme tiraillée entre sa partie rationnelle et sa partie sensible, mais il croit aussi que chacun Arkham a un démon, une instance qui tire sans cesse l'homme vers le haut, le dépasse et lui donne une direction supérieure vers laquelle s'accomplir. Un peu comme Ulysse qui, malgré tout, rentrera bien à Ithaque.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Plotin au Nouveau Chemin. Ça le fait longtemps. Est pris.
Et donc, c'est un ouvrage de Pierre-Marie Morel, L'Odyssée de l'âme, donc de chez Plotin, et puis c'est chez Armand Collin.
Merci Géraldine. Et merci à tous. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'antisémitisme. Après les réflexions sur la question juive de Sartre hier lundi, après la peur de l'imperceptiblement autre aujourd'hui, avec Jean Kelevitch, et bien demain nous parlerons de l'éternel retour d'une haine, généalogie d'une haine qui s'alimente de mythes divers. Et bien ce sera avec Marianne Matar-Bonucci, qui est professeure d'histoire à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut universitaire de France. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donnera rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter, car nous tweetons quotidiennement et Facebookons quotidiennement, enfin on met l'émission en ligne tous les jours.